Là est le défi et je vous invite à persévérer dans ce défi de la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est que comme ça qu'on peut vraiment avancer, être transformé. Alors j'espère que vous passez en tout cas un bon été. Vous savez que de notre côté, on a pu partir quelques temps en vacances. Je réalise avec les années que c'est de plus en plus terrible en fait les vacances. Parce qu'en fait, on se réjouit pas mal de temps à l'avance. On travaille beaucoup pour terminer ce qu'on doit faire avant de partir en vacances. Une fois qu'on y est, ça passe à 200 à l'heure. Puis quand on revient, il faut rattraper le retard. Je suis tout seul à vivre ça? Mais voilà, on a quand même vécu un super temps. Et puis on fait toujours de belles découvertes en vacances. Et je tenais à vous raconter cette petite anecdote qui m'a bien fait rire en commençant. Qui n'a rien à voir avec la prédication, hein, mais on entre après dans la parole, d'accord? Je commande un coca zéro pour mes deux grands enfants. C'est les vacances, vous savez, on peut boire un peu de coca quand même, hein. Et puis le plus petit, ben, il avait son jus d'orange, mais il était un peu frustré de ne pas avoir du coca. Mais c'est pas que je lui avais interdit, il avait déjà pris un jus d'orange. Et puis il lève son jus d'orange et puis il dit, eh ben moi j'ai du coca 21. Il a 3 ans, hein. Ça se comprend. Donc j'ai découvert le coca 21, les amis. Très bonne découverte pendant les vacances. Alors ce matin, j'aimerais donc terminer cette série que nous avons commencé déjà il y a quelques temps, Combattre le bon combat. Et puis, dans ce cinquième message, j'aimerais donner quelques clés pour rester dans la victoire. Alors les messages précédents avaient pour but de nous rendre conscients du bon combat que nous sommes appelés à mener, ce combat qui est pour l'Évangile, ce combat pour Jésus, pour que Jésus soit en tout et en tous le premier. On a appris à déjouer les plans de l'ennemi, j'espère que vous vous souvenez. On a appris à se saisir des armes spirituelles, à les manier, les armes que Dieu nous donne pour tenir ferme. Et puis dans le message du 2 juillet, nous avions vu 3 stratégies qui mènent à la victoire. Puis je vais juste les redire parce que ça va nous donner le prolongement pour aujourd'hui. Donc on avait vu la première stratégie étonnante que Dieu avait utilisée pour la prise de Jéricho. Cette stratégie avait amené Josué à voir dans l'invisible et à obéir dans le naturel. C'est un point que je vais reprendre aujourd'hui. La deuxième stratégie utilisée par Dieu dans le combat, c'était entre Israël et puis les Madianites, c'était d'enlever les sécurités de Gédéon pour l'amener dans une relation de confiance totale et de dépendance vis-à-vis de Dieu. Donc on avait vu, la stratégie était étonnante, la stratégie, on va dire, entre guillemets, militaire, hein. Et puis, en fait, le but était d'enlever les sécurités que Gédéon avait pour cette dépendance, pour qu'il puisse vivre cette dépendance avec Dieu. Et bien sûr, c'est toutes des choses que Dieu fait avec nous. Et la troisième stratégie utilisée par Dieu dans le combat qu'a mené Josaphat et son peuple, ça a amené finalement le peuple à célébrer et à louer Dieu. Hein, alors que le peuple a tourné le regard vers Dieu, ils ont dit, on n'a pas de solution, on tourne nos regards vers toi, on place nos regards sur toi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'équipe de louanges devant l'armée. Ça, c'était de la stratégie, hein. Ils ont mis l'équipe de louanges devant l'armée, et au moment où ils ont commencé à louer Dieu, à adorer, Dieu leur a donné la victoire sans même qu'ils combattent. Donc Dieu a combattu pour eux. Alors il y avait donc dans ce dernier message plusieurs clés pour remporter la victoire. Écouter Dieu, appliquer sa stratégie, même si elle est folle humainement, lui faire confiance totalement, accepter de perdre nos sécurités. Donc on doit vraiment comprendre que la manière appartient à Dieu. Il faut que nous, on lâche ça. Il faut qu'on lui laisse faire. Qu'on ne s'inquiète pas de la manière dont il va utiliser les choses, mais qu'on lui fasse confiance. Que ce soit avec des trompettes, avec une poignée d'hommes, ou bien sans même l'intervention humaine, Dieu remporte la bataille qu'il a choisi de mener. Il la remporte toujours. Alors là maintenant, la question aujourd'hui, c'est comment rester dans la victoire? Comment rester dans une position de victoire? Ou dit autrement, qu'est-ce qui nous empêche de rester dans la victoire? C'est pas vous, hein. Moi je trouve que c'est pas facile de rester dans une position de victoire. On a dit la victoire elle est acquise, la victoire elle est là, mais comment faire pour vivre tous les jours dans cette victoire? Généralement on avance un petit bout, Hein, parce que, par exemple, Luc vous fait un message sur le combat. Puis il vous dit, mais soyez attentifs les amis, il y a un combat qui est là, il faut le mener. Hein, voyez les plans de l'ennemi, soyez attentifs, combattez ce bon combat. Alors là, vous êtes motivés, puis dites, ah ouais, on va prendre les armes de Dieu, puis attention aux pensées négatives et tout. Et puis après, ça retombe un petit peu, puis on réalise quelques temps plus tard que l'ennemi a repris du terrain et on lutte de nouveau avec les mêmes choses. C'est vrai, non? Oui. Alors une chose est sûre, le combat, il est constant. Il y a un combat qui est constant, mais surtout si notre marche avec Dieu, elle est constante aussi. Donc si vous avancez avec Dieu, il y a un combat qui est constant, puis il y a un enjeu qui est là. Certains, ils aiment bien avancer en palier, ou bien je pourrais même dire en faisant du toboggan. Ceux qui ont des enfants ont tous fait du toboggan, et je pense qu'on en a tous fait étant enfant. Moi, je suis convaincu qu'une pente régulière, dans la croissance avec Dieu, ça vaut le coup. C'est bien de monter régulièrement, comme ça on monte tranquillement mais solidement. Le toboggan, c'est on monte assez haut, puis on redescend assez vite aussi. Après, on peut se dire, bon, j'ai réussi ce toboggan, je vais prendre le suivant, il est un peu plus haut. Mais le but, ce n'est pas de monter pour redescendre, le but, c'est de monter et de rester en haut. Donc, je ne vais pas parler de la maturité spirituelle maintenant. Ce n'est pas le sujet, mais si nous combattons le bon combat, si chaque jour on décide de se battre pour Jésus, pour l'évangile, d'une manière ou d'une autre, ben, le combat sera présent. Mais la victoire aussi, elle sera au rendez-vous. Donc d'une manière générale, je peux dire la première chose que j'aimerais vous dire ce matin, pour rester dans la victoire, il faut continuer le combat. Et ça me fait penser à l'image de Moïse qui élève ses bras et son bâton sur la montagne pendant que le combat a lieu entre Israël et les Amalécites dans la vallée. Vous connaissez certainement ce passage, on va le lire rapidement ensemble. Exode 17, 8 à 13. Je n'ai pas fait de PowerPoint ce matin, mais je suis certain que vous avez tous pris votre Bible avec vous, qu'elle soit sur votre iPhone ou bien aussi grosse et lourde que la mienne. Alors, Exode 17, verset 8. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes et de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Donc Moïse monte sur la montagne au-dessus du combat, il se tourne vers Dieu, puis il lève les mains. Puis ça, c'est une position victorieuse. Et j'imagine qu'il n'a pas directement compris l'impact ou l'importance de sa position. Mais hein, faut imaginer, il y a un combat qui se mène, c'est des milliers d'hommes, c'est pas juste trois gaillards qui sont en train de se battre en dessous. Donc il a peut-être pas compris directement que lorsque ses bras étaient levés, le peuple gagnait le combat. Mais il a pris cette position victorieuse et puis au bout d'un moment, il a dû voir que le peuple prenait du terrain alors que ses bras étaient levés vers Dieu. Et puis la fatigue était là, et puis ça retombait, et puis l'ennemi reprenait du terrain. Puis, je ne pense pas qu'il a joué gagne, gagne pas, gagne, gagne pas. Hein. Non, je ne pense pas qu'il a fait ça. Il n'a pas rigolé avec ça, certainement pas. Mais d'un coup, il a dû comprendre que c'était sa position, finalement, face à Dieu, qui était cette position victorieuse, cette position qui donnait la victoire. Et puis, ce n'était pas sans difficulté pour Moïse de garder les bras levés. Hein, je ne sais pas, si vous voulez essayer juste 5 minutes, hein, même pendant que je parle, si vous voulez le faire, vous pouvez. 5 minutes, garder les bras levés déjà, vous verrez que c'est fatigant. Hein. Et lui, il l'a fait toute la journée. Hein. Le combat a duré toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Et je crois que l'enjeu, il est ici, justement. Rester dans la victoire, c'est garder les bras tendus vers Dieu, les regards tournés vers lui. C'est ce cœur qui va continuer à louer Dieu en toutes circonstances. C'est ce cœur qui appelle son action puissante, qui appelle une touche de sa gloire dans la situation, qui appelle le miraculeux dans le combat. Et moi, je me souviens d'une fois où j'arrivais même pas à lever les mains. C'était pendant un temps de louange. Je sentais que physiquement, quelque chose me retenait. C'était certainement un enjeu dans mes pensées, mais je n'arrivais pas à lever les mains. Et puis, alors que j'ai combattu, je dis non, je vais choisir vraiment de lever les mains. Eh ben, c'est comme si une barrière énorme avait été franchie. C'est comme alors que je lève les mains, que je me tourne vers Dieu, la victoire est là, elle est acquise dans les lieux célestes. Donc parfois quelque chose nous retient, on n'a pas envie, mais j'aimerais vous encourager à monter sur la montagne, à lever vos bras vers celui qui donne la victoire. Et puis vous avez vu dans ce texte, Moïse a eu besoin du soutien d'Aaron et Hur pour tenir ferme dans la victoire. Et puis de la même manière, on a vraiment besoin les uns les autres, on a besoin des uns des autres pour mener ce combat et pour rester dans la victoire. Donc le but, ce n'est pas juste de combattre ensemble, je vous ai expliqué, hein, le combat, le bon combat, ce n'est pas juste de battre nos petits problèmes du quotidien ou nos gros problèmes du quotidien. Le bon combat, c'est ce combat qui se bat pour l'évangile, pour que le royaume de Dieu avance. C'est ça le bon combat. Et on ne peut pas le faire tout seul. Donc on a besoin les uns des autres pour mener ce combat. Et j'aimerais peut-être que symboliquement, on puisse juste le faire ce matin déjà. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble la victoire de Jésus au milieu de nous? Est-ce que vous êtes d'accord de faire ça? On pourrait juste se lever maintenant ensemble, lever nos bras, et puis on veut saisir cette position victorieuse, puis dire, mais Jésus, tu es victorieux dans ce lieu, dans l'Église, dans ce monde et dans notre combat. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Alléluia, on peut prier tous ensemble, puis déclarer ça ensemble. Alléluia Jésus, merci. Seigneur, c'est toi qui as la victoire. Seigneur Jésus, on se tient debout devant toi ensemble. Seigneur, on déclare que tu as la victoire. C'est toi qui nous rends fort. C'est toi qui nous as acquis cette victoire. Seigneur, on réalise les enjeux qu'il y a de marcher pour toi. Mais Seigneur, on déclare que rien ne pourra arrêter ton plan. Rien ne pourra arrêter notre marche. Rien ne pourra retenir ce que toi tu as prévu pour la communauté ici à l'escale. Et pour ton plan de salut qui est bien au-dessus de tout, qui va bien au-delà de notre réalité locale. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Comme ça, vous avez fait un peu de gym en même temps, c'est super. Amen. Mais négligez pas ça. Hein. C'est une position qu'on a prise déjà ensemble, et quelque chose se passe dans les lieux célestes. Je reviens à ma question. Qu'est-ce qui nous empêche de rester dans la victoire? Donc il y a le fait de ne pas rester dans la bataille, de baisser les bras, c'est ce qu'on vient de voir maintenant. Mais le Saint-Esprit m'a conduit dans un autre texte que je vous invite à lire maintenant. J'étais au début un petit peu perplexe, mais j'ai compris ensuite ce qu'il a voulu dire. Donc 2 Rois au chapitre 6, les versets 24 à 25, puis chapitre 7, 1 et 2. Je vous donnerai le contexte juste après la lecture. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et l'assiégea. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent, et écoutez bien, le quart de litre de crotte de pigeon, 5 pièces d'argent. Voilà. Et puis, un petit peu plus loin, chapitre 7, versets 1 et 2, Élisée le prophète, dit... Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel ne faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Alors quelques mots rapidement sur le contexte. Donc Élisée, vous connaissez, successeur d'Élie, hein, il a reçu une double portion de l'onction. Il a été pendant 50 ans, il a exercé son ministère pendant 50 ans dans le royaume du nord d'Israël, qui avait donc Samarie pour capitale. Et puis la Syrie, qui a toujours été ennemie d'Israël, voulait bien sûr les attaquer. Et puis Élisée a déjoué plusieurs fois les plans en fait de l'armée syrienne parce qu'il était divinement informé de ce qui allait se passer. Hein. La Bible nous dit que c'est comme s'il entendait ce qui était dit dans le salon, quoi. Il entendait les discours, les stratégies du roi, et puis il renseignait ainsi le roi d'Israël. Le roi de Syrie, alors bien sûr, décidait d'assiéger Samarie. Et puis c'était vraiment une situation donc dramatique, comme on peut le lire là. Il y avait une famine terrible. Donc les denrées étaient devenues très rares et donc très chères. Hein. C'est l'offre et la demande. Peu d'offres, beaucoup de demandes. Donc les prix montent. Et donc même la fiente de pigeon est devenue un produit de luxe. Hein. On se demande bien ce qu'ils pouvaient faire avec ça. Hein. Peut-être que vous pouvez vous promener à Yverdon, il y en a pas mal. Peut-être vous rapporter quelque chose. Enfin bon, bon appétit. Non, on n'y est pas encore, ça va. Mais j'ai pas voulu vous lire la suite du texte, mais je vais quand même en faire mention, parce qu'il y a eu pire, en fait. Il y a vraiment eu pire. C'est que certains ont même pratiqué le cannibalisme. Hein? Donc il y avait tellement plus rien que certains ont pratiqué le cannibalisme. Donc c'était vraiment terrible. Et puis le roi, quand il a su ça, il était vraiment mal. Puis il dit, mais il faut vraiment que Dieu intervienne. Et puis c'est dans ce contexte qu'Élisée prophétise donc un retour à la normale dès le lendemain. Donc on pourra acheter de bons produits à un prix convenable demain. Alors qu'est-ce que ce texte vient faire dans ce message sur la victoire ? Bien, ce qui nous empêche de rester dans la victoire, c'est très souvent notre incrédulité. Et comme ce serviteur du roi, c'est un écuyer en fait, on ne croit pas que la victoire est possible. Puis là, c'est vraiment fort ce qu'il dit, hein, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Donc l'incrédulité, je crois que c'est vraiment une forteresse qu'on doit abattre dans nos vies. Et je crois que c'est vraiment encore présent et très présent dans notre propre contexte, dans notre contexte suisse. Et il y a quelque chose à faire tomber là. Parce que si nous ne croyons pas vraiment qu'on a la victoire, ben forcément on va se décourager, puis ce sentiment va être renforcé par des pensées négatives. Hein, mais soyons rationnels, c'est pas possible, etc. Donc si on veut rester dans la victoire, il faut vraiment se débarrasser de notre incrédulité. Et puis moi, je suis convaincu que si on fait cela, on va pouvoir voir bien plus de miracles et de prodiges. Mais il faut abattre cette forteresse spirituelle, non seulement dans nos propres vies, mais aussi sur l'Église. Et je vous pose la question, en qui croyons-nous ? En qui croyons-nous ? Récemment, dans un temps de prière, moi, j'ai été touché d'une manière toute particulière. Vous allez dire, c'est basique, hein, mais d'un coup, j'ai réalisé que je m'adressais au même Dieu qu'Élisée, au même Dieu qu'Abraham, au même Dieu que Moïse, que Josué, que Gédéon, enfin, au même Dieu que tous ces héros de la foi. J'ai le même Dieu qu'eux. Je peux parler à ce Dieu-là. Et puis, la parole nous affirme qu'il est toujours le même. Dieu est toujours le même. Il n'a pas changé. Il est fidèle à son alliance. Puis comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, il nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Il nous a donné accès à toutes ses ressources. Et Éphésiens 2,6 nous dit qu'il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Dans notre recherche de la volonté de Dieu, on place souvent ici notre incrédulité. On se dit, mais veut-il vraiment nous donner la victoire ? On veut savoir ce que Dieu veut, mais il y a cette incrédulité qui est là. J'ai envie de vous dire ce matin, oui, il veut. Cette victoire, on l'a déjà. Romains 8, 37, mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est le verset que j'ai mis sur le feuillet aujourd'hui. Donc la question, elle est plutôt d'ordre temporel et stratégique. Quand et comment va-t-il manifester sa victoire ? Mais il n'y a pas de place pour l'incrédulité. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Le psaume 33,9 nous dit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Dieu, il a tout créé par sa parole et un mot de sa part suffit pour que la situation soit transformée. Souvenez-vous de ce centenier romain en Luc 7 hein, qui a dit à Jésus, mais il te suffit juste de dire un mot, puis mon serviteur sera guéri. Un mot. Il a dit, j'ai même pas besoin de venir avec mon serviteur, je veux juste un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Puis c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est la puissance du nom de Jésus. Et prenons conscience ce matin qu'il nous a donné ce nom-là en héritage. Son esprit nous habite. Donc on peut prononcer avec autorité et conviction une parole de grâce. Et Dieu agira. Donc chassez toute incrédulité, faites grandir cette réalité dans nos vies. Et puis, je le dis pour moi aussi, on a la victoire sur les puissances, sur les ténèbres, sur les maladies, sur la mort par Jésus-Christ, qui est lui mort et ressuscité, comme on l'a aussi dit à la Sainte Cène. Ça va, amen? Vous pouvez dire amen à ça? On est placé avec Christ dans les lieux célestes, d'accord? On n'est pas 10 pieds sous terre en train de mendier notre pain, d'accord? Il nous a élevés au-dessus. Dernier point que j'aimerais voir avec vous, on l'a donc déjà brièvement touché dans ce dernier message, donc il s'agit de notre manière de voir. Dans les différentes batailles que nous avions évoquées, on avait vu que l'Éternel disait ce qui était déjà accompli spirituellement avant que ce soit le cas dans le monde physique, dans le monde naturel. Donc par exemple, il a dit à Josué, « Regarde, je t'ai livré le roi d'Aï, donc d'un peuple. Okay » Déjà, il a dit « je t'ai livré », mais le combat n'était pas encore mené. Donc c'était physiquement pas le cas, mais ça l'a demandé de voir avec les yeux de la foi, de voir dans les lieux célestes. Puis je crois que là, il y a vraiment une clé pour rester dans la victoire. Et j'aimerais lire encore avec vous un autre texte qui se déroule dans le même contexte qu'on vient de lire. Donc c'est dans 2 Rois 6, c'est juste avant, au verset 13. Donc en fait, lorsque le roi de Syrie découvre qu'Élisée donc, est responsable de leur défaite, vu qu'il entend ce que lui dit à son armée, il décide d'aller capturer Élisée qui vit à Dothan, et puis c'est ce qu'on lit maintenant. Le roi dit, donc le roi de Syrie dit, « Allez, repérez où il est et je le ferai capturer. » On vint lui dire, « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent la nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, donc le serviteur d'Élisée, se leva de bon matin pour sortir de la ville. Et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Alors vous pouvez imaginer le serviteur d'Élisée qui se lève de bon matin et puis il est de bonne humeur et tout. Il va peut-être, je sais pas, chercher son eau, il sifflote, il est à peine réveillé, pas encore trop débarbouillé. Et puis il aimerait boire son café, la première chose à faire le matin bien sûr, prendre un café. Et puis d'un coup il réalise que la ville entière est encerclée par une armée. Donc on peut imaginer le choc de ce serviteur, il dit qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Donc bien sûr il court vers Élisée, il est paniqué, et puis il lui dit mais qu'est-ce qu'on va faire, on est perdu. Puis on voit la réponse d'Élisée, lui il est déjà dans la victoire, il n'a pas peur. Il est conscient de la présence de Dieu, il voit autre chose que son serviteur, puis il lui dit donc « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Alors comment fait-il ? Comment fait-il cet Élisée ? Et tout au long du ministère d'Élisée, vous pouvez vraiment, avec ce focus-là des yeux, vous pouvez vraiment découvrir des perles, parce que Élisée voit dans l'invisible, Élisée voit dans le monde spirituel. Et lorsqu'il demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur, d'un coup, ce serviteur voit une autre réalité, une réalité qui est spirituelle. Et puis, ça, c'est magnifique. Et je crois qu'on peut demander ce matin au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux. Parce qu'on a besoin de voir cette réalité spirituelle pour rester dans la victoire. Sinon, on est un peu comme ce serviteur, on a l'impression d'être tout seul devant une armée. Puis c'est souvent, c'est souvent ce qu'on vit, j'imagine, vous le vivez aussi, on a l'impression qu'il y a une montagne qui est devant nous, puis qu'on n'y arrivera à rien. Mais si on voit dans le spirituel, alors on n'est pas dans la peur, on ne baisse pas les bras, on n'est pas découragé, mais on ose affronter parce qu'on voit une réalité, on voit la réalité que Dieu nous montre. Donc on peut oser demander à Dieu de nous apprendre à voir autrement. Puis j'ai bien dit « apprendre ». Parce que je crois que c'est un apprentissage. On peut progresser dans notre vision spirituelle. Donc ne pensez pas que ça va se passer comme ça, d'accord ? Pas un claquement de doigts, mais on est appelé à progresser. C'est un peu comme voir dans le noir. Quand on est dans le noir, on ne voit rien au début. Puis petit à petit, on distingue différentes choses qui nous entourent. Puis à force, on voit toujours de mieux en mieux, toujours plus de détails. Et avec les années de vie chrétienne, on devrait voir de mieux en mieux dans l'invisible. On devrait commencer à savoir vraiment ce qui s'y passe. Et plus on connaît qui est Dieu, plus alors on est à même de comprendre sa manière d'agir dans les lieux spirituels. Mais posez-vous la question alors que vous priez. Vous pouvez le faire simplement quand vous priez. Qu'en est-il ? Qu'est-il en train de se passer dans le ciel ? Demandez ça. Montre-moi, Saint-Esprit. Dans le combat que vous menez, demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux, de vous montrer ce qui se passe dans les lieux célestes. Puis vous pouvez prendre l'habitude de faire cette prière, l'habitude de demander cela. Puis vous allez peut-être petit à petit grandir dans votre compréhension du monde spirituel. Vous allez prendre confiance que Dieu agit. Vous n'êtes pas seul. La victoire, elle est là. La victoire, elle est acquise. Amen. Alors, je termine simplement. Après, on va juste prendre un temps de prière pour ces choses. Et j'aimerais juste vous rappeler ce que j'ai dit ce matin. Pour rester dans la victoire, donc, je vous encourage à persévérer dans le combat, à prendre cette position victorieuse en levant les mains vers Dieu. Ne restez pas isolés non plus. On est appelé à se soutenir les uns les autres dans ce combat. Je vous encourage deuxièmement à prendre autorité dans le nom de Jésus afin de faire tomber les forteresses d'incrédulité dans notre vie, dans votre vie, dans nos vies, et puis afin de pouvoir croire pleinement à l'action miraculeuse de Dieu, à sa victoire qui a été acquise en Jésus. On peut le faire ensemble. Croire à l'impossible, voir que Dieu est Dieu. Et puis troisièmement, je vous encourage à grandir dans votre perception spirituelle. Donc demandez au Saint-Esprit de vous ouvrir les yeux, de vous montrer ce qui est caché à l'œil humain, afin de voir la victoire, de voir l'action de Dieu et ne pas céder à la peur ou au découragement, comme c'est souvent le cas, puisqu'il nous amène à baisser les bras ou d'arrêter de se battre. Amen. On va prendre un petit temps de prière pour ces trois choses, si vous êtes d'accord. Ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez peut-être vous lever comme une position de nouveau de victoire. Et puis on veut prendre position sur cette incrédulité. On veut abattre ces forteresses ensemble. On veut demander à Dieu son secours. Saint-Esprit, d'ouvrir nos yeux maintenant. Alléluia. Korakantayara, Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci, Père. Merci, Dieu, parce que tu es un Dieu de révélation. Par ton esprit, tu te révèles, par ton esprit, tu nous montres ce qui est caché à l'œil humain. Et on a tellement besoin de cela pour vivre cette vie victorieuse. Seigneur, je te demande ce matin de nous apprendre à voir dans l'invisible, de faire cette œuvre, Saint-Esprit, d'ouvrir nos yeux de la foi, nos yeux du surnaturel, pour comprendre qui tu es, pour voir ce que tu fais dans ce combat. Seigneur, tu vois la tendance que nous avons à baisser les bras. Seigneur, on a besoin de ces yeux ouverts. Comme une grâce, nous te le demandons ensemble. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Seigneur, on accepte que c'est une progression, on accepte que c'est un apprentissage. Mais on te demande, Saint-Esprit, de nous apprendre. Seigneur, mets aussi ce désir dans le cœur de chacun, ce désir de chercher cela, de désirer voir ce qui est pas visible à l'œil nu. Seigneur, mets cela dans le cœur. Seigneur, on veut prendre position ensemble face à l'incrédulité de nos cœurs qui sont durs. Seigneur, toutes les fois où tu nous montres ta fidélité, tu nous montres en action, mais on n'y croit pas vraiment. Et on dit, mais comme ce serviteur, tu pourrais ouvrir toutes les fenêtres des cieux, mais ça c'est impossible. Seigneur, on ne veut pas être comme ça, on veut refuser cette incrédulité dans nos cœurs. Seigneur, on te demande, Saint-Esprit, de fermer toute porte à l'incrédulité dans nos vies. Là où peut-être il y a eu une blessure, là où peut-être il y a eu une parole mal interprétée, là où peut-être il y a eu une déception. Seigneur, Saint-Esprit, on te demande de guérir afin qu'il n'y ait pas de place à l'incrédulité. Seigneur, on croit que tu nous as souverainement élevés. Et Seigneur, que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, que tu nous as donné ton nom, que nous avons autorité dans le nom de Jésus, face aux ténèbres, face à la mort, face à la maladie. Seigneur, on veut croire que tout ce que tu fais est bon et qu'il n'y a rien qui est impossible à toi. Seigneur, redonne cette foi, redonne cette passion, redonne Seigneur, on prie pour que toute incrédulité tombe au-dessus de cette église, au-dessus de cette communauté, pour qu'ensemble ici, nous puissions voir ton œuvre avancer, que nous puissions voir des signes et des prodiges se passer parmi nous. Seigneur, qu'on puisse voir des personnes guéries, non seulement parmi nous, mais ici à Yverdon, Seigneur Jésus, qu'on puisse voir ton œuvre, et on veut y croire ensemble. Seigneur, merci de soutenir les uns les autres qui sont fatigués de lever les bras dans ce combat. Seigneur, aide-nous à rester dans ce combat. Seigneur, aide-nous, aide à développer ce lien fraternel qui nous aide ensemble à se soutenir pour la victoire. Seigneur Jésus, merci d'encourager ce matin celui qui est fatigué, qui est là. Tu le relèves, tu insuffles ta vie, tu dynamises ses forces afin qu'il puisse s'élever comme l'aigle, qu'il puisse courir comme l'adolescent qui ne se fatigue pas. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 J'invite juste le groupe de louanges à revenir, si vous êtes d'accord, de prendre un chant, juste qu'on ait le temps encore de méditer un peu tout ça avant de terminer.